autour de l'un U17 2023. Avant toute chose, j'aimerais accueillir les gens avec moi en studio. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Alain? On commence par toi.
Oui, Alain Rude, ce soir je suis là en tant que speaker du Tour de l'Ain U17.
Bonjour, je m'appelle Hugo Murtin, je suis au club d'Ambérieux et j'ai 16 ans.
Bonjour, Émile Chanel, je suis à l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse et j'ai 16 ans.
Et vous avez donc tous les deux fait le Tour de l'Ain U17 2023, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Donc tout d'abord, le Tour de l'Ain U17, pour ceux qui ne savent pas, c'est une course internationale pour les moins de 17 ans. On peut dire que c'est une des plus grandes courses du monde à cet âge-là. Elle se déroule sur les mêmes routes que les professionnels qui passent juste après. Cette épreuve est très réputée. Elle a vu passer de nombreux coureurs devenus pros, comme par exemple Bob Jungels, les deux frères pareil peintres, Julian Ayuso, ainsi que Pierre-Luc Perrichon avec le même club que Hugo Murtin, le vélo club d'Ambérieu, et Geoffrey Soupe avec l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse, comme Émile. Mais également Florent Grenbeau, un médaillé olympique sur piste, qui est également à Bourg-en-Bresse, ainsi que Thibaut Pinot. Afin de vous présenter les origines du Tour de l'Ain U17, j'ai demandé à Christian Perrichon, l'un des fondateurs de cette course, de nous expliquer comment s'est déroulée la première édition. On l'écoute.
Le Tour de l'Ain Cadet a été créé en 2002 sous l'appellation Mosaïque Tour, sponsorisé par le Crédit Agricole et sa carte Mosaïque Jeune. Mise en place également d'une aide financière de la communauté européenne pour les équipes étrangères et en contrepartie d'études de thèmes et d'échanges, d'idées et de points de vue entre les équipes des différents pays, portant également sur les méthodes d'entraînement et le nombre et la forme des compétitions.
On peut donc comprendre que cette course est avant tout une course d'équipe, c'est pourquoi il y a des classements par équipe mais pas individuels, afin de mettre en avant l'esprit d'équipe chez les jeunes. Tout d'abord, le maillot jaune, il se base donc sur les trois premiers coureurs d'équipe et pas, c'est donc pas un classement individuel. Chaque coureur remporte un point lorsqu'il arrive à sa place. Par exemple, le premier gagne un point, le dixième 10 points, le cinquantième 50 points. On additionne les classements des trois premiers de chaque équipe et cela donne un classement général par équipe. Il y a également le maillot à poids qui se base sur le même système de points. Lui, les points sont pris en haut de chaque col sur chaque étape. Le maillot bleu, lui, récompense l'équipe ayant remporté l'étape de la veille. Donc, pas au général, mais seulement l'étape. Seul le maillot vert se base sur un coureur, le vainqueur du sprint intermédiaire placé sur le circuit de l'étape. Cependant, c'est toute l'équipe qui porte le maillot, pour renforcer encore une fois cet état d'esprit d'équipe. Alain, tu es speaker autour de l'Ain U17, tu connais donc bien toutes les équipes, je te laisse donc nous les présenter rapidement.
Je ne sais pas si on les cite toutes, on va dire, on avait 31 équipes cette année qui ont participé, dont 13 étrangères. On avait 4 équipes belges, 3 équipes des Pays-Bas, 2 luxembourgeoises, 1 suisse, 1 italienne. Et nouveauté cette année, une équipe venue des États-Unis d'Amérique et une de Pologne. Sinon, eh bien, on va citer, comme tu l'as fait déjà tout à l'heure avec nos invités, l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse et le vélo club d'Ambérieu, donc qui sont là depuis le début, qui étaient co-organisateurs en 2003 ou lors de la première édition. Comment dire, il y a des gens d'un peu partout. On a des gens de Bourgogne-Franche-Comté, on a des gens qui viennent de Picardie, d'Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment. Voilà, pour l'essentiel, d'Alsace également, on a une équipe alsacienne.
Et Alain, est-ce qu'il y a eu d'anciens vainqueurs qui étaient présents cette année? Je pense notamment à Tarlan Romandy qui aurait gagné en 2021.
Ah oui, non, mais le Tour de l'Ain U17 donc, se dispute pour les 15 et 16 ans, c'est-à-dire on ne peut participer que deux fois maximum dans sa vie et nos invités ont de la chance, c'est bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un coureur allemand qui a gagné, les Allemands avaient gagné à deux reprises dans les années 2008-2009, je crois. 2009-2010, voilà, on va être précis. 2009 et 2010, il y a un coureur allemand qui était présent les deux fois, donc c'est le recordman, un peu comme Thibaut Pinot, qui a gagné deux fois chez les pros. Oui, on a dit... C'est le seul allemand. D'ailleurs, je suis en train de perdre la question que tu m'as posée, Adrien.
C'était juste présenter les équipes. Hugo et Emile, du coup, vous faites partie des deux clubs qui représentent l'Ain. Vous courez donc sur les mêmes routes que les courses. Est-ce que ça vous aide de courir à domicile?
Oui, parce qu'on connaît mieux les routes.
Oui, ça aide beaucoup. Déjà, on a beaucoup plus de supporters, donc c'est un avantage.
On va donc passer maintenant au résumé de la première étape. Alors tout d'abord, la première étape, elle était toute plate. Elle reliait Châtillon-sur-Chalaronne à Morvel, avec une seule petite difficulté, la côte de Suligna à 7 km. C'est parti super vite dans cette bosse, et après ça, une échappée de 5 coureurs s'est détachée. Un de l'équipe Wanty, donc un Belge, un de Piémontais, un Italien, et donc 3 de IF, avec 2 Américains et un Canadien. Après avoir bien collaboré, les 3 Américains, l'équipe américaine ont commencé à attaquer, et un coureur de IF s'est échappé avec celui de Wanty, avant de le battre au sprint. IF prendra donc la tête du classement général grâce à ses coureurs qui finiront 1er, 3e et 4e. Pour l'anecdote, le vainqueur de l'étape, Ashlyn Barry, a son père qui a fait également le Tour de l'Ain dans les années 90. J'ai également eu la chance de me retrouver dans la voiture d'IF lors de la première étape. C'est des Américains qui ne parlaient pas un mot de français, donc du coup, je leur servais de traducteur pour la radio. C'était une super expérience et c'était également super sympa parce que j'ai vécu la course juste derrière l'échappée. Ils sont vraiment rapides, ils roulaient super vite, 47 de moyenne pour la première étape sur les 83 km. J'ai pu discuter avec eux. Ils m'ont dit que c'était la meilleure équipe d'Amérique et qu'ils voulaient tester en Europe pour voir s'ils étaient aussi bons contre des Européens. On peut donc voir que oui, ils se débrouillent pas mal. C'était des gars super sympas et super humbles. Les coureurs sont des futurs champions à devenir. Alain, tu vas nous présenter les différents vainqueurs de maillot suite à cette étape.
Eh bien, on fait comme les grands, on a 4 maillots cette année parce qu'on a des partenaires, des entrepreneurs du département qui s'investissent pour le cyclisme et en priorité pour les jeunes. Donc, d'une part, ça fait plaisir et puis on peut les mettre en évidence. Donc, bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, Adrien, donc, l'équipe leader reçoit le maillot jaune, c'est une tradition et là, c'est le Crédit Mutuel qui parrainait. On a le maillot bleu, donc le vainqueur d'étape, mais comme les Américains ont tout trusté, eh bien, le maillot... est porté par le deuxième maillot, c'est l'entreprise Privalis, gestion privée, Mathieu Néret, qui patronne également du côté du Vélo Club d'Ambérieu, je crois, qui patronne des courses également. Et c'est donc l'équipe qui terminait à la deuxième place, c'est-à-dire les courses, ça doit être les coureurs de Piémontais. Le maillot à poids aussi de la montagne, deux entrepreneurs passionnés. Ils n'ont aucun intérêt à servir le cyclisme, mais ils mettent de l'argent pour nous aider. On les salue bien respectueusement. ARP, générateur de business, et son dirigeant, M. Patrick Tenant, ainsi que l'entreprise REI Industrie, conduite par Frédéric Fléchon et son adjoint Yann Bertillet. Voilà, c'est, comme tu l'as dit, donc au sommet du col. Et puis, on a aussi un maillot vert pour les sprints. Et là... c'est surprenant, c'est côté particulier, Côte de Granit Rousse qui parraine ça. Donc, c'est Romain Robart, c'est un coureur breton du Finistère. Il est venu en tant que coach, il a travaillé dans la région et il vient comme bénévole maintenant. Donc, après chaque étape, les lauréats sont reçus au podium et revêtent le maillot.
Et Wanty qui a donc gagné ce maillot vert. J'ai également eu la chance de pouvoir prendre les premiers mots du vainqueur de l'étape, Ashlyn Barry. On peut l'écouter dès maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Vous étiez 3 dans l'échappée. Comment vous avez fait pour arriver là? C'était un départ très dur avec un bon vent au départ. Très dur avec beaucoup d'attaques. Et mes équipiers ont fait un trou d'à peu près 5 secondes avec le peloton. Et je les ai rejoints. On est juste allé à fond. Et quand on a eu assez de marge d'avance, c'était bon, on s'est joué la gagne. Et quelle était la stratégie quand vous êtes retrouvés dans l'échappée à 3 contre un coureur de Wanty et un de Piémontais pour jouer la gagne et la victoire de l'étape? Je savais qu'on était plutôt forts, tous les 3. Et je sais que je suis sûrement le plus fort au sprint entre nous. Donc quand on avait assez d'avance sur le peloton, pour jouer du coup la gagne de l'étape, et avoir un minimum de points, on a commencé à attaquer, et je me suis échappé avec un coureur. Mes équipiers étaient juste derrière, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à nous rattraper.
Donc j'ai sprinté contre le coureur de Wanty et j'ai gagné et mes équipiers finissent 3e et 4e.
Toi, tu n'as pas eu autant de réussite, on t'a vu vite lâcher. Est-ce que tu peux nous expliquer les problèmes qui te sont arrivés?
En début de course, des chutes sont survenues à l'intérieur du peloton, ce qui nous a distancés et après compliqué de revenir au contact du peloton.
Tu as été pris dans une cassure suite à une chute devant toi, mais tu n'es pas tombé, c'est ça?
Oui, c'est ça, on est resté une vingtaine de secondes tout le long et après ça a commencé à grimper.
Parce qu'on rappelle que l'échappée gagne avec 47 de moyenne et que le peloton est à plus de 42, c'était donc très compliqué de rentrer suite à, après un écart. La course était donc extrêmement rapide, mais aussi très longue pour des U17. Émile, tu finis dans le peloton, c'était pas trop long, 83 km pour toi?
Non, ça va, je trouve pas que pour des cadets 83 km ce soit trop. Parce qu'il faut savoir que tous les coureurs qui participent au Tour de l'Ain, on a déjà tous un gros niveau, on s'entraîne beaucoup. Et de plus, on a déjà l'habitude de faire cette distance sur certaines courses, comme par exemple les Coupes de France sur certains championnats. Et puis pour moi, 83 km, je préfère les courses longues. Il se passe plus de choses et puis je suis meilleur en fin de course.
Ok, donc ce n'était donc pas un problème pour toi.
C'est ça.
Je pense qu'on peut désormais passer à l'étape 2. Alors la deuxième étape, elle reliait Ordona, un petit village dans le Bugey, à Lagneux, pour un total d'environ 60 km. Mais surtout la présence de deux cols, la côte de Seyonaz, d'environ 5 km, et surtout le col de Porte avec son terrible final. À la fin, c'est encore une fois l'équipe IF qui remporte cette étape en plaçant 4 coureurs dans le top 8. Il m'avait pourtant dit qu'il ne savait pas grimper. Sinon, Alain, il n'y a pas eu tant de changements que ça pour les maillots. Le maillot jaune reste chez IF.
Ah oui, le maillot jaune reste chez les Américains et l'écart se creuse. C'est assez considérable l'avantage des points puisque, comme tu l'as dit, donc c'est un classement par points. Sinon, et bien derrière, on a les mêmes équipes. On a la Piemonte italienne, l'équipe de Pologne qui est là. Les Néerlandais d'Amstel sont pas très loin. Les Suisses de Talleyrand-Romandie, on a des équipes étrangères là, qui, dans la première partie, ont vraiment dominé.
Hugo, ton équipe, le Vélo Club d'Ambérieu, se retrouve 15e au classement général, deuxième équipe française. Quel était l'état d'esprit après cette étape? Certains de vous, avec notamment toi, ont encore eu des problèmes, mais est-ce que vous étiez content pour l'équipe ou la déception personnelle était au-dessus de la satisfaction de l'équipe?
Non, content pour l'équipe, mais déçu personnellement d'être tombé dans les premiers kilomètres. Mais oui, bonne place de l'équipe, ce qui nous a bien fait avancer.
IF est donc première au classement général devant l'équipe nationale de Pologne et les Belges de la team Marchevolette que j'ai eu la chance d'interviewer après cette étape. On les écoute parler en français mais également en néerlandais.
Col de Porte aujourd'hui, c'était dur, c'était comment?
Col de Porte, c'était très dur, le début assez régulier et la fin, grosse planche pour terminer avec des passages à plus de 10%. C'était très 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 compliqué.
L'équipe est troisième au général, est-ce que tu es fier de votre équipe et de votre performance?
Je suis très content avec la performance qu'on a su faire avec cette équipe. On a su bien faire une équipe pour cette course et on essaie de continuer comme ça pour la dernière étape qui va venir.
L'équipe est donc troisième au général aujourd'hui. Quels sont les objectifs du coup pour demain?
Tout d'abord que toute l'équipe finisse la course. Je pense que c'est le premier objectif. Puis ensuite, conserver la troisième place. Voire une deuxième place, pourquoi pas. Puis ensuite, pour moi, ce serait de faire déjà mieux que les deux premières étapes et pourquoi pas un top 10.
Surtout le col de Porte qui était très très compliqué. Émile, comment tu fais pour passer au mieux ta montée? T'as préféré garder le même rythme et gérer? Ou alors tu as tenté de suivre les meilleurs, quitte à exploser dans la bosse?
J'ai préféré suivre les meilleurs dans la première bosse avant le col de Porte du coup. Et sur la fin, j'ai lâché un peu, ce qui m'a permis d'en garder un peu pour justement le col de Porte. Je pense que j'aurais pu suivre le groupe pour la 20e place, mais suite à une mauvaise alimentation, je suis tombé en fringale. Du coup, je finis la course à la 68e place.
Un peu dommage quand on voit tes efforts, mais tu te rattrapes bien le lendemain. On verra ça plus tard. Alain, tu étais à l'arrivée, les coureurs, ils arrivaient plutôt groupés ou complètement seuls et désordonnés?
Ah bah ça commence à être disloqué, évidemment, surtout que la moyenne est considérable. Moi, je dis chapeau, coureur, c'est impressionnant. Première étape, 20 minutes d'avance sur l'horaire prévu. La deuxième étape, un peu plus de 20 minutes également. C'est allé vraiment très, très vite. Je ne sais pas ce que nos invités en pensent, mais oui, pour le juge à l'arrivée, c'est plus facile à classer.
J'imagine bien. Mais aussi, comme l'a dit Hugo, il y a eu certains problèmes avec quelques petites chutes. Heureusement, plus de peur que de mal pour la plupart des coureurs. Et de nombreuses chutes ont été évitées, notamment grâce aux motos de la sécurité qui font un travail fou. On écoute Eric qui nous explique comment la sécurité est mise en place sur ce Tour de l'An 8-7.
Eric, tu vas donc nous expliquer comment se met en place la sécurité autour de l'An 8-7.
Oui, bonjour. La sécurité sur le Tour de l'An 8-7 consiste à avoir une équipe de motards dédiée à bloquer les carrefours au fur et à mesure que la course avance, ainsi qu'à signaler tous les mobiliers urbains, terre-plein, central et autres chicanes qu'il pourrait y avoir pendant l'épreuve. Il y a également un porteur photographe ainsi qu'un porteur commissaire, plus un motard au niveau du véhicule balai pour pas que des véhicules viennent rentrer au sein de la course par l'arrière.
Donc cette deuxième étape était donc très très rapide, encore une fois. On peut donc, je pense, passer à la troisième étape. La dernière étape, l'étape reine, reliant Belledoux à l'Elex et en passant par le col de Mentière. Dès le départ, encore une fois, l'équipe américaine IF accélère et place 4 hommes dans l'échappée. Les 4 eux-mêmes. Derrière, Wanty réagit avec un coureur de talent Romandie et un de Piémontais et un Polonais, encore une fois. Les Polonais, eux, jouent le maillot à poids. Ils lancent donc les hostilités directement dans la première bosse. Derrière, la plupart explosent, mais un coureur de Polonais réussit donc à s'accrocher dans l'échappée. Le coureur belge de Wanty, le vainqueur de la veille et deuxième la première étape, s'échappe et remporte encore une fois l'étape. Mais comme à son habitude, Yves remporte l'étape par équipe et encore une fois, le maillot jaune. Ils sont juste trop forts pour la concurrence. Derrière, les coureurs arrivent un à un à l'Elex, complètement vide. Alain, pas de changement au maillot jaune, mais un changement pour les autres maillots. Explique-nous.
Forcément, j'ai pas vraiment tous les classements sous les yeux et en tête, mais bon, on sait que les Américains ont vraiment dominé, les Polonais étaient là, donc pour cette troisième étape avec donc le Mentière, le col de Mentière qui est particulièrement difficile, hein, j'espère qu'on va développer un petit peu là-dessus. Il faut que nos invités s'expriment là-dessus parce que c'est vraiment, ça doit être passionnant quand même. L'arrivée sur l'Elex est difficile et puis là. Eh bien oui, première là-haut, on a accueilli l'équipe américaine, les Italiens de Piémonte, les Néerlandais de Westlam. En quatrième position, c'est le team Géotherme Carbonite Marchovolette qui arrive, ils sont de la région de Namur. Les Polonais sont là en cinquième, les Néerlandais de l'Amstel sixième, les Suisses de Talent Romand 17e. Et puis pour notre plus grand bonheur et mon plaisir personnel, eh bien, l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse arrive 8e et première équipe française. Là, on a eu des écarts vraiment importants, mais la tête de course est arrivée avec 30 minutes d'avance sur l'horaire qui était programmé par Christian Perrichon et Ludovic Dubois, les directeurs de l'organisation. Et on va dire, de mémoire, ce sont quasiment 130 coureurs qui ont couvert la distance en moins de temps que ce qui était programmé, c'est-à-dire que malgré la difficulté de ce parcours, vraiment ça a vraiment bien tourné. Je ne sais pas ce que nos invités en pensent, mais vous étiez vraiment bien, les routes étaient sèches, il faisait beau.
Surtout que c'était la troisième étape, il y avait encore de la fatigue de la veille et des deux jours précédents.
Au contraire, hein, je crois. C'est pas la fatigue, c'est la motivation et ça vous stimule, non, de courir plusieurs jours de suite. On s'encourage, on tire les leçons de l'étape précédente.
Ouais, c'est ça. On essaye de faire mieux après chaque étape. Puis c'est vrai que ça allait quand même assez vite avec les Américains qui roulaient tout le temps fort dans les descentes, en montée et sur les replats, c'était impressionnant.
Et est-ce que la déception de la première étape, parce qu'au classement général, vous êtes un peu manqué, est-ce que ça t'a boosté pour faire mieux les jours d'après?
Ouais, c'est ça, ouais. C'était vraiment notre objectif, parce que la première étape, on s'est vraiment fait avoir avec les chutes, les cassures, tout ça. Donc par équipe, c'était pas vraiment foufou. Mais du coup, on s'est bien rattrapé sur cette dernière étape, donc ça finit bien.
Hugo, toi, on sait que t'es pas forcément grimpeur, et puis tu étais touché tes chutes de la veille. Comment c'était ton étape derrière, pote?
Étape difficile, avec des douleurs suite à la chute de la veille. Cela m'a fait abandonner.
On te souhaite donc un bon rétablissement. Donc, IF qui remporte encore une fois cette étape. Cette fois, elle ne place qu'un seul homme sur le podium. Un peu décevant de leur part. Mais ils remportent l'étape et le classement général haut la main devant les Polonais. Et les Belges de Marchevolette, du coup, qui finissent bien troisième et qui défendent leur place. Ce sont les Belges que nous avons écoutés quelques minutes auparavant. Émile, toi, du coup, tu finis très bien ce Tour de l'Ain avec une 30e place sur cette dernière étape. Et l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse, ton équipe, termine 8e de cette étape. Et surtout, première française. Comment tu te sens après cette super performance collective et individuelle?
Je suis vraiment satisfait de ma performance personnelle en obtenant une bonne position. Nous avons fait une très belle course par équipe aussi avec par exemple Nathan qui finit 25e et moi 30e. Donc ça nous... Du coup, au classement par points, on n'en a pas beaucoup. Après, on a fait la course qu'on aurait dû faire en fait la veille dans le col de Porte. Mais c'est pas grave. Je pense qu'avec l'équipe qu'on avait, nous étions à notre place sur cette dernière étape. Être la première équipe française sur l'étape du Tour de l'Ain qui était sur la troisième étape la plus difficile, c'est vraiment une réussite pour toute l'équipe.
On peut le comprendre, surtout que tu cours avec ton frère, ça doit être super de partager ces moments avec ton frère.
Ouais, c'est ça, en plus on a à peu près le même niveau, du coup dans les bosses on était tout le temps à côté pour s'entraîner, donc c'était cool.
On t'a vu bien t'arracher dans le col de Mantières et dans les legs, c'était super.
Oui, c'est ça, merci.
L'étape était donc super dure. J'ai pu recueillir les propos d'un coureur du club de Jura Cyclisme après l'arrivée. On peut l'écouter.
Enchaînement de col de la Mantières, les legs, c'était comment?
C'était un enchaînement très très difficile. On était venu le repérer début de semaine, mais ça, c'était super dur l'enchaînement des deux. La descente, elle était super technique, donc fallait rester concentré et ça descendait très fort, donc on n'a pas trop eu le temps de récupérer entre les deux. C'était assez dur, ouais, l'enchaînement. Puis au bout de trois, c'était la troisième journée, donc vraiment très très dur.
On a vu qu'il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, ça vous a aidé ou déstabilisé?
Il nous a vachement aidé dans le col de Mantières, vu qu'on l'a quasi monté tout d'eau ou trois quarts d'eau. C'était un avantage, mais le plus dur, c'est au-dessus de Giron, c'est qu'on l'a repris de face. Et dans les longs faux plats avant de rebasculer au-dessus de Giron, c'était très très dur.
Voir donc que cette étape était, comme l'a dit Hugo et Emile, très 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 compliquée. Alain, est-ce que tu peux nous parler des différents vainqueurs de cette troisième étape? Et donc du coup, des vainqueurs finaux de ce Tour de l'Ain U17 des différents maillots?
Eh ben... Le maillot jaune, tout le monde aura compris, nos auditrices, nos auditeurs, hein, même si on n'est pas passionné par le cyclisme. Vous avez compris donc que les Américains se sont imposés avec... Oui, c'est impressionnant, 33 points, hein, c'est vraiment faible. Hein, la deuxième équipe, la Pologne, 141 points. La troisième, le team Géotherme Carbonac, Marchevolette, 180 points. Voilà, moi j'ai presque envie de dire qu'il y avait deux classements là. On est un petit peu... C'est un petit peu un mini Tour de France, non? Il y avait Vingegaard, États-Unis, il y avait Pogacar, Pologne, et puis après les autres, quoi. Donc, quelque part, pour moi, Marchevolette, c'est presque le premier club amateur. Enfin, c'est un peu un petit trait d'humour, une petite pointe quand même, parce qu'après, les points, c'est vachement serré. Ils se tiennent en quelques quinzaines de points. Pour les autres classements, oui, on n'a pas précisé, je crois, Adrien, mais... n'y a pas de classement général pour la montagne. C'est chaque étape et on repart à zéro le lendemain matin.
Oui,
on a oublié de le dire. Hein, les
j'ai
points.
Oublié
les...
de le dire.
Ça, c'est surtout pour récompenser les coureurs parce que je pense que porter un maillot, c'est quand même quelque chose. On est sur la photo sur le podium, il y a quelque chose.
C'est la plus belle des récompenses, on peut dire.
Ben voilà, c'est ça. Et puis, ça met aussi en évidence parce que on va pas se leurrer. Il y a une chose qu'il faut pas parler, c'est d'argent. Parce que, bien sûr, mais sans argent, on ne fait rien. Et quand on a la chance d'avoir des dirigeants d'entreprise, qui s'investissent, qui aident, qui donnent. Moi, je tire mon chapeau à tous. On les a cités tout à l'heure, mais en particulier à Patrick Tenant, qui est extraordinaire. D'ailleurs, il est tellement extraordinaire que je me tourne vers Rémi à la régie et je vais lui montrer la casquette, la belle casquette qu'il nous a préparé, donc aux couleurs de Radio B. Je crois que peut-être qu'on aura un partenariat. On va voir ça avec le retour de la directrice dans quelques semaines. Oui, c'est une très très belle édition, ça va très très vite, mais... Enfin, moi, vu du podium, le niveau est haut, très haut.
Et pour avoir
trop
parlé...
Trop haut, presque, peut-être. Je ne sais pas, j'en parlerai à Christian et à Ludo, nos directeurs. Ça tire tout le monde hein, quand il y a des équipes très fortes, mais là c'est peut-être un peu trop fort par rapport à l'esprit Tour de l'Ain, même si bien sûr il faut évoluer, on n'est plus en 2003, globalement quand même, comme tu le disais, les Américains sont quand même, pour des Américains, ils sont fort modestes et fort corrects, donc ça fait toujours plaisir de côtoyer ces garçons. Et tu as parlé du petit Barry, il y avait aussi... j'ai perdu son prénom, Incapi, voilà, Enzo Incapi, qui n'est autre que le fils de Georges Incapi, qui a couru très très longtemps chez les professionnels et qui, pour la petite histoire, a épousé une Française.
Oui, l'équipe américaine qui surdomine. Ils ont dans leur équipe Ashlyn Barry, qui a gagné la première étape, qui est canadien. Ils ont également dans leur équipe le champion national des États-Unis de contre-à-la-montre, de route. Et de critérium, c'est-à-dire une course d'environ 1 km d'un tour que nous faisons quasiment une centaine de fois. Ils sont donc très 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 forts. Et les trois champions nationaux sont trois coureurs différents. Et les trois étaient présents sur le Tour de l'Ain. Et pour avoir parlé du coup avec les Belges de Marchevelette, ce qu'ils nous disaient, c'est que devant eux, il y a les Américains d'IF et l'équipe nationale de Pologne. Donc pour eux, ils ont gagné, ils sont premiers des normaux, quoi. Car devant eux, il y a les meilleurs d'Amérique. IF a tous les champions nationaux. On a donc la meilleure équipe d'Amérique et d'Amérique du Nord. Et en face, on a l'équipe de Pologne, donc l'équipe nationale, quoi. Ce sont les cinq meilleurs coureurs polonais. Et donc, moi, je trouve que l'équipe Marchevelette, en plus d'être super sympa, sont vraiment cool. Et ils sont vraiment forts parce que... Parce qu'avec de simples coureurs, soi-disant normaux, ils arrivent troisième et s'en sortent très très bien face à ces armadas entre eux. Émile, du coup, tu finis huitième de la dernière étape et dans le top 20 des classements par équipe. Est-ce que c'est un bon résultat ou tu t'attendais à mieux ?
C'est déjà un assez bon résultat, ouais. Après, par équipe, avec l'équipe qu'on avait, je pensais qu'on allait quand même faire mieux, mais on s'est raté sur la première et la deuxième étape, donc au final, 18e, c'est déjà une très bonne place.
Hugo, vous finissez 16e de mémoire. Par rapport à l'année dernière, c'est quand même un très bon résultat. On rappelle que l'année dernière, l'équipe avait vraiment, vraiment galéré entre chute, crevaison et problèmes mécaniques. Est-ce que vous êtes fiers de votre équipe ?
Oui, on est fiers de notre équipe. On a réussi par rapport à l'année dernière, comme tu l'as dit. On s'est mieux débrouillé et on a réussi à faire de bonnes places cette année.
Oui, une chose, si je peux me permettre. Adrien, oui, tu me permets. Hein. Non, c'est toi le chef, hein, donc
oui,
moi
oui, je te permets.
Je gratte, hein. C'est quand même... cette course, il faut bien retenir. Hein. J'insiste pour nos auditrices, nos auditeurs. C'est par équipe, ça se dispute par équipe, donc c'est pas forcément une bonne chose à l'image des Wanty, par exemple, belges. Ils ont un garçon, comme tu l'as dit, qui est très très fort, qui était devant tout le temps. Mais le deuxième et le troisième, parce que c'est le troisième finalement, le coureur le plus important dans une équipe, eh bien ils étaient relativement loin. loin derrière l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse, loin derrière le vélo club d'Ambérieu. Donc, c'est pas un garçon tout seul qui peut tout faire. Faut vraiment, c'est le collectif, c'est important. On se côtoie, on échange. Par exemple, j'ai un petit souvenir avec Sian Huige de Brox, qui est un coureur ô combien prometteur. Il a participé deux fois avec le Sprint 2000 Charleroi. Eh bien, l'équipe avait terminé 13e la première année, 5e la deuxième année, alors que ce garçon, c'était également un garçon combien prometteur. Victor Lafay aussi, hein, vainqueur d'étape sur le Tour de France récemment, a couru le Tour de l'Incadé en 2011. Eh bien, son équipe, Evie en vélo, n'avait pas gagné pour autant. Donc, c'est vraiment le collectif, les gens échangent. Et cette année, la plupart des équipes, vous étiez ensemble à Blis, au niveau hôtel, au niveau restauration. Donc, vous avez échangé avec les collègues des autres équipes
Oui, on parle avec les autres coureurs.
Un niveau de peut-être l'encadrement, la préparation, le déroulement des courses dans telle ou telle région de France. J'imagine qu'il y a il y a pas mal de différences.
Oui, oui.
Vous avez des exemples sur le contenu de vos échanges?
Non, pas spécialement.
Vous parliez de la course. Est-ce que vous débriefiez ensemble comment s'est passée votre course? Émile, je te laisserai nous répondre. Eh bah, ben, Hugo, réponds-nous.
Non, on parlait spécialement de la course, de comment ça s'est déroulé pour eux comme pour nous. Et on parlait des étapes suivantes après.
Et sachant que vous viviez ensemble, on peut le dire, vous étiez au même endroit, est-ce que ça renforçait l'esprit de l'équipe Esprit d'équipe entre vous?
Oui, ça renforce l'équipe d'esprit pour ce qu'on est ensemble toute la soirée, qu'on parle, on communique.
Émile, je vois que tu fais ton timide. J'ai vu l'autre soir, le mardi soir, puisque l'organisation était à vos côtés. Il y a des baby-foot, là. Vous avez lancé des défis à vos collègues des autres clubs?
Oui, on a affronté les autres équipes, donc on rigolait bien ensemble, du coup, puisqu'on les a gagnés, nous, donc... Donc c'était bien.
J'ai pas eu cette chance quand j'ai joué.
Voilà, non, mais c'est ça aussi l'intérêt. Il y a la course, et la course, mais c'est pas vraiment un championnat. Hein. C'est une course par équipe. Déjà, la cohésion au sein de chaque club, que ce soit du côté de l'ECBB, du VCA. Bon, vous vous connaissez bien, évidemment, vous êtes du même club, mais le fait de vivre ensemble cette expérience, ça renforce. On apprend peut-être à mieux se connaître, à se comprendre, à être complémentaire pendant les étapes.
Oui, voilà, on apprend à voir aussi comment les autres équipes fonctionnent, donc ça nous apprend des choses à nous-mêmes et à notre équipe. Puis vu qu'on était avec Ambérieu, Ambérieu, ils sont à côté. On part par exemple l'hiver, on fait notre stage dans le même hôtel en Espagne, donc on est quand même assez proches tous ensemble, même si on n'est pas dans le même club.
Et puis une petite question, parce que on a des gens, Geoffrey Sou, Pierre-Luc Perrichon, ils sont passés professionnels, ils ont fait des grandes choses. On a vu Sylvain Moniquet, qui est actuellement sur le Tour de Pologne. Il était avec l'équipe de Marche-Volette il y a quelques années. Il n'avait pas gagné non plus, mais lui, personnellement, il est arrivé en tête des deux étapes de montagne. Ça vous dit, quand vous voyez les noms de tous ces gens, ces jeunes qui sont passés professionnels, Pierre Gautra aussi, vous devez le connaître, à peine plus âgé que vous, Romain Grégoire, Valentin Paré, peintre, Juan Yaruzo, etc. etc.
Est-ce qu'il vous inspire?
Oui, ça inspire forcément. On aimerait bien aller faire comme eux. On s'en donne les moyens, on s'entraîne pour. Et peut-être un jour, ça paiera, on verra bien.
Je pense qu'on peut donc passer directement à la conclusion qui risque d'être plutôt longue.
Bah oui, parce que c'est peut-être là quand même. Il faut que je te dise, là, je t'interromps, mais pour le Tour de France, j'ai croisé Geoffrey Soupe. Geoffrey Soupe, donc, a couru deux fois le Tour de l'Ain des cadets. En 2003, il a gagné avec le CBB. Et puis, il avait de nouveau participé en 2004, à l'âge de 16 ans. Il en garde un souvenir, un excellent souvenir. Et je crois, Adrien, que tu as échangé avec lui pas mal. Qu'est-ce qu'il t'a dit au juste?
Ouais, en effet, j'ai rencontré Geoffrey Soupe. J'ai eu la chance et l'honneur, on peut le dire, de l'appeler. Donc, Geoffrey Soupe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coureur professionnel depuis de nombreuses années. Il fait des courses comme Paris-Roubaix, Tour de France, donc il a sa place dans le peloton professionnel sans aucun doute. Et donc j'ai eu l'honneur de parler avec lui pour qu'il nous explique comment s'est déroulée du coup la première édition du Tour de l'Ain cadet, donc U17 maintenant, en 2003, qu'il a remporté avec l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse. Il m'a expliqué l'expérience qu'il a eue et qu'est-ce que qu'est-ce que ça lui a apporté, pardon. Tout d'abord, comme de nombreux jeunes de son âge, Geoffrey rêvait d'accéder au monde professionnel à cette époque. C'est donc une super opportunité de courir en amont des pros, parce que ça reste, comme je l'ai déjà dit avant, la même course que les pros, elle est juste plus courte, donc il y a les mêmes installations, le même public, tout est pareil. Il m'a également dit du coup que ce qu'il préférait, c'était donc ce public et cette installation qui le fait sentir comme un pro. On a l'impression de vivre comme un pro. Je ne sais pas si vous deux, ça vous fait la même chose. Est-ce que ça vous fait plaisir, toute cette installation et cette organisation, notamment à l'arrivée, avec tous les gens qui attendent les pros et qui vous encouragent?
Oui, c'est une très très grosse organisation. Ça fait plaisir de voir le monde qu'il y a pour les U17 cadets comme pour les pros, à nous encourager à la fin. Et... Voilà.
Donc du coup, pour lui, c'était une super opportunité de courir en amont des pros. Le Tour de l'Ain U17, c'était donc une super expérience, au-delà de la course, car les coureurs, ils récupèrent, donc à l'arrivée, il faut savoir que c'est la même. Donc les bus des pros sont juste derrière ceux des cadets. Donc la plupart des U17 vont à l'arrivée voir les pros, voir les bus, pour récupérer leurs premières autographes, photos et bidons. C'était également le cas de Geoffrey Soupe en 2003. Mais ils ont également l'opportunité d'aller les voir comme tous les coureurs, car comme tous les coureurs, ils idolâtrent les pros. En effet, comme tout cycliste, ils les voient comme des héros et impressionnés par leur force. Hein. Comme dit précédemment, il faisait partie du coup de l'ECBB et il était fier de représenter son club dans une course de ce niveau. Émile, tu fais partie du même club. Est-ce que ça t'inspire cette histoire de Geoffrey Soupe qui a remporté le Tour de l'Ain cadet avec ses coéquipiers en 2003?
Oui, ça m'inspire beaucoup, parce que vu qu'il est passé dans le même club que moi, ça donne un chemin à suivre un petit peu. Et donc on va essayer de faire pareil et d'atteindre le même niveau qu'il a maintenant.
Il m'a également décrit du coup le format des premières éditions, l'édition 2003, mais également celle de 2004 qu'il a participé. Donc du coup, c'était à peu près le même fonctionnement. C'était des étapes comme celle des pros, juste raccourcies. Elles étaient juste, il y avait juste plus d'étapes parce qu'avant, il y avait 5 jours de course. Donc du coup, il y avait également la montée à l'Elex comme cette année. Sauf que cette fois, c'était un chrono par équipe de la montée de l'Elex. Je trouve ça super sympa. Est-ce que Émile, t'aurais aimé faire un contre la montre par équipe dans ce Tour de l'Ain cadet?
Pas forcément pour ma part, parce que je suis pas très fort en contre la montre, mais après... Si on regarde par rapport au Tour de l'Ain, c'est un contre-la-montre par équipe, ça serait peut-être bien, parce que ça met en valeur justement l'esprit d'équipe, d'être avec ses coéquipiers, pour bien tourner, prendre ses relais, tout ça. Ça serait peut-être pas mal. Après, je sais pas si y en a pas, c'est peut-être pour une bonne raison que je ne connais pas.
Et du coup, Émile, est-ce que donc t'es d'accord avec ses propos par rapport à tout ce qui parle de l'arrivée qui fait rêver? Et de ce Tour de l'Ain qui est super sympa pour les courses, mais également pour l'ambiance autour.
Oui, je trouve ça super bien, parce qu'on est, et c'est, l'organisation, elle est énorme. On se sent un peu comme des pros. On a les motos qui nous sécurisent, des bénévoles, les voitures qui nous suivent derrière. Si on a un problème, elles sont là. Il y a les spectateurs aussi qui sont nombreux au bord des routes, qui attendent les pros et qui nous voient passer en même temps. Du coup, ils nous encouragent aussi. Et après, on arrive à l'arrivée, on a l'occasion comme ça de voir les pros arriver, et après d'aller voir leur équipe pour des autographes vers les bus, des bidons, des trucs comme ça, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Du coup, ton Tour de l'Ain est terminé depuis hier. Qu'est-ce que tu as pensé et quelle expérience t'en tires?
Déjà, beaucoup d'expérience, parce que c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de courses comme ça en France. Je sais même pas s'il y en a qui accueillent des étrangers comme ça, donc j'ai trouvé que cette année déjà c'était beaucoup plus dur que l'année dernière. Avec les étrangers, il y avait un niveau énorme avec l'Education First, et donc voilà. Et du coup, pour cette organisation que le Tour de l'Ain a mis en place, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et pour ces 2 années d'ailleurs, comme ça fait pour l'année dernière où j'ai pu participer au Tour de l'Ain.
Pour ceux qui ne se rendent pas compte du niveau, pour vous donner un ordre d'idée, le vainqueur de la 2e étape, donc, qui a gravi le col de Porte, Son temps, si on le met dans le peloton professionnel, il finit 21e de l'étape. Donc, on peut, malgré qu'ils aient moins de fatigue parce que leur étape était plus courte, on peut se rendre compte de la performance ahurissante que c'était. Donc, du coup, comme Émile l'a dit, cette course, c'est une grande expérience pour tous les coureurs qui s'approchent pendant quelques jours du monde professionnel, mais cela apporte également de l'expérience à l'organisation. On peut donc écouter Christian Perrichon qui va nous parler de l'expérience que ça lui apporte, ainsi que Philippe Coyou, le directeur du Tour de l'Ain. Et du coup, Christian, quel est ton ressenti après ces 20 années sur le Tour de l'Ain ?
Eh bien, c'est une excellente expérience auprès de tous ces jeunes durant 20 ans de ce Tour de l'Ain, ayant permis à certains d'accéder au haut niveau et même très haut niveau. Toujours réel plaisir d'encadrer et de permettre à ces jeunes de vivre des moments uniques.
Je suis donc avec Philippe Coyou, directeur du Tour de l'Ain. Philippe, comment est venue cette idée de faire un Tour de l'Ain cadet ?
Eh bien, moi j'ai la responsabilité, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, de l'organisation, depuis 1999. Et à l'époque, on avait beaucoup, comme aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de bénévoles issus des clubs du département qui nous aidaient à organiser le Tour de l'Ain. Et pour nous, c'était naturel d'organiser une course pour les professionnels, mais également d'offrir la possibilité aux jeunes coureurs des clubs, principalement à l'époque c'était surtout la région, hein, le département de l'Ain, la région, de participer au Tour de l'Ain avec un Tour de l'Ain cadet. Voilà, pour nous c'était naturel, c'était mettre en valeur et reconnaître les efforts de tous les clubs et tous les bénévoles qui œuvrent à la formation des jeunes.
Et du coup, avec cette évolution croissante, on peut voir notamment des équipes qui viennent des États-Unis maintenant. Quel est ton ressenti après cette rapide évolution ?
Bah, je pense que c'est déjà très bien. C'est une évolution formidable pour le Tour de l'Ain cadet, U17 maintenant. Parce que bon, l'épreuve a évolué. Peu à peu, des équipes de différentes régions de France, de pays européens et maintenant de pays hors Europe sont présents sur l'événement. Ça veut dire que c'est un événement qui plaît beaucoup aux jeunes. Des courses pour les moins de 17 ans par étape, il n'y en a pas 36. Et le palmarès est là pour en témoigner. Donc c'est quelque chose qui est ouvert maintenant au niveau international à beaucoup de jeunes, et c'est très bien. Et on voit d'ailleurs plusieurs coureurs qui se sont illustrés sur le Tour de l'Ain cadet, sont devenus par la suite des très très bons coureurs et ont participé au Tour de l'Ain professionnel. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de formidable de pouvoir offrir à des jeunes la possibilité de faire une course par étapes et de les voir quelques années après évoluer pour certains parmi les pros.
Merci. Du coup, avant de conclure, Alain, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ?
Mais il nous reste un petit peu de temps, donc oui, disons que moi, à titre personnel, de par ma position, je voudrais quand même citer quelqu'un, ils sont deux à qui je dois énormément, c'est Monsieur Hugues Baldasso et puis Monsieur Jean-François Putet. Hein, ce sont donc eux qui ont proposé à Philippe Coyou, que je remercie pour sa confiance, de me permettre de tenir le micro dans cette épreuve. Et Hugues Baldasso, je crois qu'il faut vraiment le saluer. Je pense qu'on a oublié de poser la question à Philippe l'autre jour, mais sans Hugues Baldasso, le Tour de l'Ain professionnel ne serait sans doute pas ce qu'il est devenu. Je crois que voilà, c'est ça. Et puis, quand on côtoie Daniel Manjas et François Belet, ben, c'est que du régal. Et pour vous, les coureurs, d'ailleurs, c'est bien également, quoi. J'imagine, quand on a la voix de Daniel Manjas, c'est vraiment la voix du Tour. François Belet, qui est absolument extraordinaire. Moi, je voyais, il y a des coureurs, c'était leur anniversaire, ils ont cette chance-là. C'est pas la tienne, Émile. Tu n'es pas né assez tôt, quoi, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais le fait d'avoir son anniversaire souhaité par Daniel Manjas et François Belet, c'est quand même quelque chose, ça reste, quoi.
Oui, il y avait trois anniversaires sur ce Tour de l'Ain.
Oui, enfin, voilà, c'est des petites choses. Quand on a la chance de côtoyer des personnalités de cette valeur, c'est un plus, quoi. Et si Daniel Manjas vient tous les ans, c'est bien que la direction du Tour de l'Ain se rend compte que, il apporte un plus. C'est indéniable. Il a toujours la même passion. C'est formidable. C'est un exemple. Puis, ce qu'on peut dire aussi, les coureurs, faut pas se prendre la tête non plus, hein. Il y a ceux qui vont passer professionnels, hein, comme Geoffrey est passé professionnel en 2011, hein, il a un sacré bail. Mais il y en a d'autres après, par exemple, Sprint 2000, Charleroi. le coach Didier Dieudonné nous avait dit lors de la dernière étape, les 5 coureurs qui ont gagné en 2008 ne sont plus dans le vélo, quoi. Mais aujourd'hui, ils en parlent toujours. Et moi, à titre personnel, il m'arrive de côtoyer une fois par an en Namur un coureur de marche aux volettes, Guillaume Peigneur. Eh bien, Guillaume garde un souvenir formidable du Tour de l'Ain cadet. Et puis la vie, c'est autre chose. La vie, hein. Guillaume, il s'est associé avec son père. Ils sont à la tête d'une entreprise et tout. C'est la vie, quoi. On n'est pas obligé, il ne faut pas se prendre la tête, mais il faut réussir. Et puis, ça reste pour lui, je sais, un souvenir indélébile. D'ailleurs, je lui adresse un clin d'œil, car je suis certain que depuis Namur, là-bas, il doit nous écouter.
Oui, c'est un événement qui marque et qui reste gravé dans nos mémoires. Parce que j'ai eu la chance d'y participer.
J'allais dire, oui, toi-même, Adrien, raconte-nous.
Et moi, c'était pareil. Je l'ai fait l'an dernier, c'est-à-dire l'édition 2022. Donc moi, j'avais de la chance. Il n'y avait pas encore les Américains d'IF qui martyrisaient le peloton. Mais ça reste une super expérience. Et c'était une des meilleures expériences de ma vie que j'ai pu avoir. Et c'était à peu près la même édition, les étapes changeaient pas trop, elles étaient juste un peu plus courtes. Et ça reste un moment incroyable, quoi. Je me souviens encore des descentes qu'on pouvait faire, notamment de Mentières, à des allures incroyables. Et surtout avoir ce truc en plus sur le Tour de l'Ain cadet, car on sait que les routes sont fermées pour les pros qui arrivent juste après. Et donc, on peut prendre les courbes comme on veut, sans se prendre la tête. Il y a peu de courses pour les gens de cet âge-là qui ont cette chance d'avoir des routes fermées en montagne. Donc, c'était vraiment, une chance de fou. Et vraiment, c'est une expérience qui m'a marqué. Et je sais que j'en parlerai encore pendant des années de ce Tour de l'Ain cadet, que du coup, j'ai disputé avec Émile et Hugo l'an dernier.
Et puis le Tour de l'Ain, c'est aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a toutes les motosécurités, il y a tous les signaleurs tout au long du parcours, dans les villages quand même. Niveau sécurité, pour toi, Émile, donc sur des courses en ligne comme ça, j'imagine que tu as dû apprécier quand même de pouvoir évoluer, non pas les yeux fermés, mais en toute... sans inquiétude, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est super important qu'il y ait des motos, tout ça, pour nous indiquer les terre-pleins au milieu. C'est, en peloton, c'est super dangereux parce qu'on voit pas ce qui se passe devant. Donc puis ça arrive super vite. Et du coup, s'il y a un motard avec un sifflet qui nous indique qu'il y a un danger au milieu, ça nous prévient. Les voitures sur le côté, on est au courant avec un motard aussi. Les voitures sont arrêtées, donc c'est super important. Puis heureusement qu'elles sont là, on les remercie beaucoup d'ailleurs.
Oui, du coup, on remercie tous les bénévoles, Christian Perrichon et Ludovic Dubois qui chargent du coup de l'organisation, mais également tous ceux qui sont dans les voitures, les médecins qui ont eu pas mal de travail, mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés graves, mais aussi les gens de l'ombre, quoi, ceux qui sont dans les hôtels, les cuisiniers, ou alors ceux qui sont au parking et tout, qui doivent faire contre l'humeur de certains directeurs sportifs. Un peu énervé et un peu sur les nerfs. Donc il faut remercier les bénévoles et même toi, Alain, qui prête ta voix du coup au Tour de l'Ain U17 en tant que speaker et qui présente toutes les équipes à chaque arrivée.
Non, mais ça, c'est assez facile quand même. Et puis c'est quand même, c'est vrai que c'est un plaisir, hein, on va le dire. Hein, mais bon, les chutes, faut pas s'inquiéter. Hein, une course cycliste sans chute, ça n'existe pas. Un match de rugby sans coup de poing, ça n'existe pas.
C'est rare.
Un match de football sans cinéma de la part des joueurs, ça n'existe pas. Un tennisman qui se plaint ou qui va vite au vestiaire parce qu'il tombe une goutte d'eau, ben voilà, ça fait partie du jeu. Mais on les a vus, on avait un coureur hollandais qui avait plusieurs points de suture. Il nous a rejoint mercredi soir avec un grand sourire. Donc c'est vrai que les coureurs cyclistes, ils sont quand même valeureux. Et même à votre âge, 15-16 ans, c'est un plus le vélo, ça apporte un plus, hein, je crois, la personnalité.
Ouais, et puis même surtout ce que je pense qu'on peut ressortir de ce Tour de l'Ain, c'est surtout la bonne humeur de tout le monde. Donc on a parlé des Américains qui dominaient tout le monde, mais ils étaient super humbles, c'était vraiment gentil, ils ont offert des choses à certains bénévoles, ils étaient toujours avec le sourire. J'ai également à l'équipe de Marche Volette qui a bien voulu que je vienne les voir et dans la bonne humeur et tout, mais aussi tous ceux qui étaient sur les routes, qui souriaient, qui étaient contents d'être là. Donc merci aux coureurs et aux bénévoles. Je pense qu'on peut, se donner rendez-vous l'année prochaine pour le 21e Tour de l'Ain U17. La date, du coup, elle est encore incertaine pour les Jeux Olympiques et le Tour de France. Ça risque d'être, d'être compliqué. Il faudra voir comment les organisateurs feront pour caser le Tour de l'Ain dans le planning des professionnels et des cadets. Mais on se reverra sûrement bientôt, Alain. Tu as prévu de nouvelles courses, toi?
Oui, voilà. Non, mais après, on va revenir à notre rythme départemental. On va prendre du recul, on va regarder les vidéos qui circulent, les photos. Et puis oui, la 21e, eh ben, elle aura lieu. On peut pas s'arrêter comme ça, quoi. Mais une question, puisqu'on a, il nous reste quelques minutes, Adrien. Émile, l'année prochaine, tu es junior.
Oui, c'est ça.
Il y a un autre rendez-vous sacrément important, c'est le Valromey. Donc, deux années junior, tu l'as dans le coin de ta tête. Hein. Enfin, j'y vois dans tes yeux, tu l'as dans le coin de la tête.
Oui, oui, on espère aller au Valromey. Après, je pense pas que j'ai beaucoup de chance d'y aller, parce qu'il y a vraiment des coureurs qui sont forts et qui sont plus forts que moi, justement. Puis il va falloir... donc on verra bien l'année prochaine, mais ouais, c'est vrai que le Valromey, ça fait rêver. Ouais.
Si, si, mais on pourra peut-être avoir une sélection de là. Hein. Si c'est pas le club, on prend les des coureurs juniors du département et on a ça comme objectif. Hein.
D'ici deux ans, t'as le temps d'y aller, t'as le temps de progresser, d'y aller.
Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. On ira peut-être, on verra bien où le destin nous mène, de toute façon.
Ouais, exactement, ouais, faut pas... On va pas... Hein, mais prends exemple sur Sylvain Moniquet, par exemple, le coureur de Marchevolette. Il a fait deux fois le Tour de l'Ain cadet. On l'a vu nettement en progrès la deuxième année. Ensuite, il a participé deux fois au Tour du Valromey en brillant, en réalisant de belles performances. Et puis, il est revenu il y a deux ans sur le Tour de l'Ain des professionnels. Il a porté le maillot du meilleur grimpeur lors de la première étape. Ça fait des références. Et il y en a d'autres. Hein. Thibaut Pinot, bon, Thibaut Pinot, c'est quand même la classe au-dessus, on est d'accord. Mais qui sait si un jour... tu n'auras pas, si le destin le veut bien.
Oui, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver, on verra bien de toute façon.
Non, mais faut y croire, toujours y croire.
En tout cas, du coup, je tenais à féliciter tous les coureurs qui ont terminé, parce que cette édition était du coup très 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 dure, très très rapide. Ils n'ont pas été épargnés par la météo également, la pluie, le vent, surtout hier, des grosses rafales dans l'école, ça ne devait pas être agréable. Mais du coup, bravo aux coureurs. Et on se retrouve bientôt lorsque le parcours du Tour de l'Ain U17 sera annoncé. Émile, tu ne seras plus là, tu seras en junior, mais il reste pas mal de tours à faire l'année prochaine et dans les années qui suivent. Alain, je te laisse le mot de la fin.
Bon, on va remercier nos invités. Merci à toi, Adrien, qui te lance. Et qu'on va peut-être retrouver à la rentrée, qui sait, sur les bonnes ondes de Radio B, 90 FM. Merci à Émile Chanel, notre invité, donc porteur des couleurs de l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse. Merci à Hugo Murtin, son collègue du Vélo Club d'Ambérieu. Cette émission sera à retrouver en podcast très prochainement. Ça sera pas tout de suite. Hein. On va vous laisser passer le week-end, les vacances, c'est le mois d'août. Fin août, elle sera en podcast donc sur le site de Radio B, www.radio-b.fr, pardon. C'est l'émotion. Hein. Radio-b.fr. Allez, maintenant, on a pris la place d'une émission emblématique du jeudi 17h. Merci à Michel et à Tonio. Qu'on va retrouver tout de suite pour une rediffusion. Donc, au terminus des prétentieux, c'est maintenant, c'est tout de suite sur les bonnes ondes de Radio B. Restez fidèles. Merci à vous. Merci Adrien.
Merci, au revoir, et à bientôt.
Tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut $2000.
Oui, mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera.
Alors, il dort le gros con.